c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulonnier-Chamiers et par le monde sur Internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté Béatrix,
Eduardo,
et à la technique Simon.
Oui, merci beaucoup
François.
Et nous avons au sommet cette semaine parler de l'influence, de l'ingérence en fait des États-Unis sur notre continent. Nous allons parler du Brésil et du Mexique. Et à la fin, nous allons consacrer une partie de notre émission à une littérature que vous allez découvrir avec nous. Alors, je laisse la parole à Béatrix pour nous parler de ces pas besoin de maîtres, n'est-ce pas Béatrix?
Oui, en Amérique latine, oui, c'est un extrait du journal mexicain El País, article repris par le Courrier international. Il y a des fantômes que l'Amérique latine croyait évanouis. L'un d'entre eux est cette idée que Washington peut décider de ce qui se passe au sud du Rio Grande, au Mexique Rio Bravo, et déterminer quels gouvernements sont acceptables, quelles menaces justifient une action unilatérale, quels intérêts propres sont au-dessus de la souveraineté des autres. L'attitude du gouvernement Trump trahit une vision du monde qui renvoie aux pires heures de l'impérialisme et menace un ordre international construit pour éviter que la loi du plus fort ne devienne la seule règle. L'Amérique latine ne connaît que trop bien les conséquences d'une telle logique. L'histoire régionale est traversée d'épisodes où les ingérences étrangères, à commencer par celle des États-Unis, se présentaient comme des solutions à des problèmes urgents et ont fini par engendrer instabilité, polarisation et profonde détérioration institutionnelle. Au Mexique, les procès intentés par le ministre de la Justice des États-Unis contre des responsables politiques locaux, ou encore les actions unilatérales qu'aurait menacé Washington contre les cartels de narcotrafiquants, visent à remettre en cause la capacité de l'État mexicain à exercer son autorité sur son territoire. Au Brésil, les mises en garde adressées à des institutions judiciaires et politiques pour des décisions qui relèvent de la souveraineté nationale alimentent la confusion entre influence diplomatique et ingérence, menaces de surtaxes douanières et interventions contre les gangs.
Thank you.
Vous êtes bien sur l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord.
Merci François. Et maintenant, nous allons
continuer. Oui, après cette petite pause musicale, là, on continue sur l'Amérique latine qui n'a pas besoin de maître. En Colombie, le soutien sans réserve de Trump au candidat d'extrême droite Espriella montre à quel point le président états-unien juge légitime de conditionner des décisions souveraines à sa volonté et à ses intérêts. Ses actions partent du principe que Trump se réserve le droit d'intervenir, de faire pression ou d'exercer sa tutelle sur des processus qui relèvent exclusivement des démocraties latino-américaines. L'inquiétant, ce n'est pas seulement la pression venue des États-Unis, c'est aussi la rapidité avec laquelle certains dirigeants de la région semblent disposés à renoncer aux droits de l'homme ou à la défense des libertés pour les subordonner à un ordre du jour politique qui trouve dans l'actuel gouvernement états-unien son principal porte-drapeau. Derrière ce phénomène, on devine les progrès d'une extrême droite toujours plus coordonnée et capable de partager des stratégies et des objectifs. La force de cette pression réside dans sa capacité à déplacer le débat public et à obliger d'autres acteurs à reprendre une partie de son discours. Quand des idées qui remettent en cause des droits acquis ou diffusent une idéologie d'exclusion, la menace est plus forte que n'importe quel gouvernement. L'Amérique latine n'a pas besoin ni de tutelle ni de protecteur. La volonté d'une puissance étrangère de jouer un rôle de supervision sur des pays souverains appartient à une époque honteuse pour n'importe quelle démocratie. Ressusciter cette vision du monde est une régression vers des formes de domination qui ne devraient jamais revenir.
L'autre Amérique sur RLP.
Bien. Et maintenant, Béatrice,
oui, c'est un extrait du journal Le Monde sur aussi les États-Unis qui imposent leur tutelle sur une partie de l'Amérique latine.
Voilà.
La plupart des pays du continent, même non alignés, se plient aux injonctions de l'administration Trump qui n'hésite pas à recourir à des menaces de sanctions pour faire primer ses intérêts. Partout, Trump réactive sa tutelle sur la région avec un but assumé. Faire primer les intérêts des États-Unis et accaparer les ressources locales. Face à la première puissance militaire du monde et ses menaces de sanctions ou de retrait de visa, la plupart des pays, même non alignés, se plient aux injonctions états-uniennes. par pragmatisme ou conviction, comme l'Argentine, le Chili ou l'Équateur. 17 États ont ainsi adhéré en mars dernier au bouclier des Amériques. Ces dernières semaines, plusieurs pays ont été contraints de signer avec les États-Unis des accords, soit de coopération militaire, autorisant la présence de troupes états-uniennes, soit migratoires pour recevoir les expulsés des États-Unis. Pour l'heure, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, résiste au nom de la souveraineté et n'accepte une coopération sur le terrain que si celle-ci reste sous sa direction. Sous les pressions de Washington, plusieurs États ont désigné certains groupes criminels comme des organisations terroristes. Certes, les pays latino-américains n'ont pas la capacité de lutter seuls contre le crime organisé. Fin mars, le journal New York Times révélait que le camp bombardé en Équateur était en réalité une ferme laitière.
Voilà donc de la musique des Paraguay, en fait. Hein. C'est un grand guitariste paraguayen qui a composé cette musique à la guitare. Et nous avons parlé, Béatrice, d'une entente entre le Brésil et le Mexique, n'est-ce pas?
Oui, entre Lula et Sheinbaum. La gauche fait front contre les ingérences encore des États-Unis. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le président brésilien Lula da Silva ont tenu le 10 juin dernier une visioconférence. Les chefs d'État des deux plus grandes puissances d'Amérique latine ont échangé sur les grands enjeux du moment, dans un contexte régional marqué par une pression croissante de Washington. L'un des points saillants de l'échange a été la question cubaine. Les deux mandataires ont confirmé leur position commune en faveur de la levée de l'embargo états-unien sur Cuba et ont exprimé leurs préoccupations face à la grave situation humanitaire dans l'île. Le président brésilien a manifesté son opposition aux pressions interventionnistes des États-Unis dans la région en ciblant le soutien public de Donald Trump à des candidats d'extrême droite. Du côté mexicain, la présidente Sheinbaum avait aussi dénoncé une tentative d'ingérence états-unienne à la suite d'une demande d'extradition du gouverneur de Sinaloa, accusé de lien avec un cartel de narcotrafic. Cette réunion intervient une semaine après de vives tensions commerciales entre les États-Unis et le Brésil. Le gouvernement brésilien a qualifié de tentative d'ingérence la décision états-unienne de proposer des droits de douane supplémentaires sur les importations brésiliennes. La chancellerie brésilienne a réagi en affirmant qu'une enquête des États-Unis sur des pratiques commerciales déloyales brésiliennes obéissait à des motivations purement électorales en vue du scrutin présidentiel brésilien de l'automne prochain. Sur le plan bilatéral, les deux présidents ont passé en revue les avancées de leur coopération économique.
Vous êtes sur l'émission L'autre Amérique sur RLP.
Oui, merci François. Et maintenant, nous allons parler d'une boisson, n'est-ce pas Béatrice, qui a envahi le Mexique.
Et oui, il s'agit du Coca-Cola. Le groupe états-unien a su jouer de ses influences dans les cercles du pouvoir pour promouvoir ses intérêts au détriment de la santé publique menacée par une épidémie d'obésité. En février dernier, un Airbus A320, peint en noir et rouge et marqué du logo Coca-Cola, avait atterri à l'aéroport de Mexico. Le ministre des Affaires étrangères mexicain a accueilli l'appareil sur le tarmac. À son bord, pas un chef d'État, mais le trophée de la Coupe du Monde 2026 de football dont le Mexique est l'un des pays hôtes. L'industrie de Coca-Cola pèse 2% de produits intérieurs bruts à elle seule pour près de 110 000 emplois directs et plus de 1 500 000 emplois indirects. Ces 350 centres de distribution alimentent une infinie de points de vente, notamment de plus de 1 500 000 de petites épiceries. Coca-Cola a souvent dépassé le terrain des affaires pour atteindre les plus hautes sphères du pouvoir. L'ex-président Ernesto Cedillo est devenu membre du Conseil international de Coca-Cola. Le gouvernement de Claudia Sheinbaum a mis en place des mesures visant à réduire la consommation de soda. Mais en mars dernier, le PDG de Coca-Cola, Enrique Brom, était reçu par la présidente Sheinbaum qui a annoncé que Coca-Cola investirait 6 milliards de dollars dans le pays.
Eh oui, et Trump, qui fait beaucoup d'affaires, doit être très content comme ça. C'est une façon d'envahir les pays avec des boissons, parfois de la inculture états-unienne. C'est mon avis très personnel. C'est pour cela que nous allons passer à la musique. Merci, merci Simon. Alors, nous allons parler un peu des littératures et des écrivains français qui ont été attirés par l'Amérique latine, n'est-ce pas, Béatrix ?
Oui, c'est un, dans une,
un livre,
un livre sur, qui s'appelle « Les Amériques » et écrit par Philippe Olé Laprune. Au cours du XXe siècle, l'Amérique latine a constitué, pour les écrivains occidentaux, un espace les invitant à l'ailleurs et aux rêves. Goût pour la fuite, soif d'évasion, désenchantement à l'égard de la culture européenne, mais aussi contrainte de l'exil face aux dangers totalitaires en Europe, les raisons qui ont poussé au départ ces fabricants d'imaginaires sont nombreuses et leurs séjours ont eu des conséquences radicales sur leur destin et sur leurs textes. Roger Caillois, en Argentine, les surréalistes français au Mexique, Blaise Cendrars et Georges Bernanos au Brésil, Henri Michaux en Équateur et Robert Desnos à Cuba. On retrace leurs drames personnels et leurs rencontres avec cette terre des passions, des déséquilibres et des exaltations qui a fait naître certaines des œuvres les plus marquantes de notre temps. Ils n'y sont pas venus pour triompher ou faire carrière. Ces écrivains évoqués sont comme expulsés de leur pays natal, rejetés par leur propre société. Ils sont saturés de mentalités occidentales et de raisons clairvoyantes ou sont menacés par le contexte politique de leur temps. Mais en aucun cas, le voyage en Amérique latine n'est motivé par un désir de reconnaissance ou de succès. Ils sont donc chassés de chez eux et vont chercher au loin le contrepoint de ce qu'ils ont connu et projeter sur le lieu nouveau les fantasmes qu'ils traînent avec eux. Une fois rendus dans leur nouvel univers, ils apprécient la culture ancestrale et la fraîcheur qu'ils ne trouvaient plus dans leur monde, et à tort ou à raison, peu importe, ils croient les découvrir dans ce lieu encore énigmatique et généreux. La dynamique de l'écriture réclame un espace facilitateur. L'Amérique latine propose en ce sens une étendue parfaite pour laisser s'épancher les illusions propres à la littérature. L'Amérique latine, d'abord rêvée avant de devenir réalité et liée à l'imaginaire avant le premier contact, et des écrivains se laissent prendre par leur désir d'utopie. Georges Bernanos, Blaise Cendrars, André Breton veulent y faire leur chimère et y développer une société idéale. Ils imaginent voir dans ce paysage le possible théâtre d'une société parfaite. Seul ce lien ancré dans les rêves est digne de recevoir de tels projets. Le voyage vers l'Amérique latine se nourrit d'un espoir comparable. Retrouver les traces d'un monde perdu.
l'émission L'Autre Amérique touche à sa fin.
Merci, merci François. Oui, notre émission touche à sa fin, effectivement. Et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée, parce qu'il y a les vacances. Simon va se charger gentiment de programmer des émissions sur le site de Radio Nationale d'Espagne. Et je remercie Béatrice qui nous a livré des informations sur notre continent. Et merci beaucoup à François qui a aussi participé à notre émission. Et merci à Simon, tout à fait très performant pour accompagner dans la technique. Muchas gracias et hasta pronto.